Passez une bonne journée à l'écoute de France Culture. Il est précisément 8h30. Les chemins de la connaissance, la semaine prochaine, seront consacrés au miroir, effet de miroir. Fin de la série, ce matin, de Roland Huguet, intitulée « Le bréviaire des tyrans ». Ce matin, également le sous-titre « La vision de Tacite » avec le concours de Pierre Grimal.
Domitius et Camillus Scribonianus avaient pris possession du consulat quand Tibère, franchissant le détroit qui sépare Capré de Sorrente, se mit à côtoyer la Campanie. Incertain s'il entrerait à Rome, ou, comme il avait décidé le contraire, faisant croire à son arrivée. Il descendit même souvent dans les environs, et visita ses jardins situés près du Tibre. Ensuite, il regagna ses rochers et sa solitude maritime, où il cacha la honte de ses crimes et de ses débauches, dont l'ardeur l'emportait à ce point qu'à l'exemple des rois, il souillait de ses caresses les jeunes hommes libres. Et ce n'était pas seulement les formes et la beauté du corps qui allumaient ses désirs, mais dans ceux-ci une enfance modeste, dans ceux-là les images de leurs ancêtres. Alors furent inventés les noms auparavant inconnus de Cellarii, de Sprintriae, qui rappelaient les lieux obscènes ou de lubriques raffinements. Des esclaves affidés lui cherchaient, lui traînaient des victimes, récompensant la bonne volonté, effrayant la résistance. Et si un parent, si un père défendait sa famille, ils exerçaient sur elle la violence, le rapt, toutes les brutalités d'un vainqueur sur des captifs. Tacite, Annales, 6, 1.
Pierre Grimal, vous venez de publier un Tacite, ce qui comble une lacune puisque l'ouvrage classique de Ronald Symes n'a jamais été traduit en français. Et Tacite, on le sait, a dénoncé sans complaisance la tyrannie que connut la Rome de l'Empire et qui a pour nom Caligula, Néron, Domitien et quelques autres. Tyrannie par certains côtés mythique, car on a sans doute chargé le portrait des empereurs romains comme celui des tyrans grecs, et de ce point de vue, le bréviaire est le même. Mais tyrannie, cependant, bien réelle, indéniable, dont témoignent les proscriptions, les meurtres, la surveillance maladive de la pensée, allant jusqu'à la répression du moindre mot d'esprit. L'originalité de cette tyrannie et d'abord d'avoir prétendu se légitimer par un fondement religieux emprunté aux monarchies hellénistiques dont nous parlions l'autre jour. Néron et plus tard Commode, pour ne parler que d'eux, se veulent empereurs-dieux, donc révérés comme tels. Le second point, sans doute, est que cette tyrannie naît de la mauvaise organisation des pouvoirs. On a voulu préserver des apparences républicaines, et partant, il n'y a pas de légitimité claire, pas de loi de succession bien définie, ce qui engendre des luttes permanentes et sourdes pour la conquête du pouvoir, et chez les empereurs, la hantise du coup d'État, dont la répression préventive est le corollaire inévitable. Et pourtant, Pierre Grimal, au début, ça ne s'était pas trop mal passé.
Vous voulez dire que ça avait bien commencé avec Auguste ? Qui avait établi une liberté, sans aucun doute. Nous en avons des témoignages, pas seulement par les historiens, mais par des inscriptions, les édits de Cyrène, etc. Et peu à peu, le système s'était dégradé. Ça avait commencé avec Tibère, qui avait eu des accès de tyrannie. Et puis, alors après, ça avait continué avec Caligula, Claude, et ça avait culminé avec Néron.
Alors, est-ce que le souvenir de la monarchie dans la conscience de ceux qui subissent la tyrannie à Rome, d'abord les sénateurs, ensuite la classe des chevaliers, est-ce que le souvenir des Tarquins est encore présent dans leur conscience ?
Ah, c'est un problème difficile. En réalité, Auguste a évité, comme vous savez, le nom de roi. Il s'est fait appeler simplement princeps, ce qui était une notion ou un mot républicain. Les Romains, vous ne l'ignorez pas, avaient prononcé le vœu de ne jamais rétablir de roi à Rome. Et c'est parce qu'on accusait César d'avoir aspiré à la royauté que s'est formée la conjuration qui a abouti à sa mort aux Ides de Mars. Alors il y a là un tabou. Et il a fallu bien des années, et même pratiquement un siècle, pour en venir à bout et pour faire que les Romains puissent reconnaître ce qui était un fait depuis longtemps, que leurs princes, leurs empereurs étaient des rois. Alors là, il y a un problème sur lequel on ne met pas toujours l'accent, mais qui est important, c'est que en fait, dans la vie romaine, même sous la République, il restait des morceaux de royauté. L'impérator qui avait été désigné pour mener une armée contre l'ennemi, cet impérator avait des pouvoirs royaux, des pouvoirs discrétionnaires. Seulement, ils étaient limités dans le temps et ils ne s'appliquaient pas aux togati, aux gens en toge. Ils ne s'appliquaient qu'aux soldats qui s'engageaient par sacramentum à obéir comme des sujets obéissent à un roi. Alors, il y a là une espèce d'ambiguïté au fond même de la constitution des lois républicaines, et c'est la raison pour laquelle les princes, qui étaient les premiers citoyens à l'intérieur dans la vie civile, étaient impératores, c'est-à-dire empereurs à l'extérieur dans la vie militaire et dans l'administration des provinces.
Si nous en revenons maintenant à ce qu'on appelle l'Empire, le fondement c'est que Rome a besoin d'un pouvoir fort.
Oui, d'un pouvoir fort à l'intérieur même de Rome et aussi à l'extérieur. Parce que l'empereur est avant tout le gouverneur d'un certain nombre de provinces, qui sont les provinces délicates, dans lesquelles il y a des armées, etc., les provinces qui ne sont pas complètement pacifiées, et il intervient directement par ses legati, précisément avec ce pouvoir impérial que j'essayais de définir tout à l'heure. Mais à l'intérieur même de Rome, le souvenir des guerres civiles, des rivalités, de la corruption également de la classe dirigeante au temps de Cicéron, tout cela a laissé un très mauvais souvenir. Et on a peur des guerres civiles. Et ce qu'on demande d'abord aux princes, c'est la paix, la Pax Augusta.
Alors, autre élément de cette situation, c'est que ces guerres civiles, précisément, ont décimé l'aristocratie.
Oui, elles ont décimé l'aristocratie, les vieilles familles romaines ne sont plus ce qu'elles étaient, et il a fallu, depuis Jules César, faire venir des provinciaux. Et cela a été, au fond, un bienfait, car on a ainsi associé à la plus haute instance politique de l'Empire toutes sortes de populations qui, sans cela, se seraient senties lésées, se seraient senties sujettes. Et il n'y a pas de plus patriote, de plus dévoué au salut, à l'éternité de l'Empire qu'un homme comme Tacite, qui est un homme venu d'une province gauloise, vraisemblablement, l'hypothèse de Saïm est très valable, de Narbonnaise probablement, et puis d'autres, même les princes comme les Flaviens sont des Italiens et non des Romains, ils appartiennent à l'aristocratie italienne, et puis alors vous avez après ça, avec Nerva, Trajan, des gens qui viennent d'Espagne. Et après, ils viennent d'Afrique avec les Sévères et de Syrie, pas toujours avec bonheur d'ailleurs.
Donc nous avons ce régime qui a ses complexités et il dérape en tyrannie assez vite, il faut bien le dire.
Oui. Bon,
vous avez signalé que Auguste, du temps d'Auguste, peut-on parler de tyrannie ?
Non, pas proprement parler. Nous savons par Dion Cassius que Auguste s'entourait de conseillers, non seulement les conseillers de son conseil du prince, les amis du prince, mais aussi beaucoup de gens dans le Sénat. Ils demandaient leur avis avant de prendre des lois. Et nous savons que certaines des lois qu'ils voulaient prendre ont été refusées par ses conseillers et que Auguste s'est incliné. Et bien sûr, il y avait quelques procédés de monarchie orientale, la suppression par exemple d'Agrippa Postumus, n'est-ce pas, ce jeune homme qui ne paraissait pas apte à succéder à Auguste. Il y a eu de l'arbitraire, mais dans l'ensemble on a conservé le souvenir d'un d'une autorité sereine, pacifique, et qui a surtout assuré, ce qu'on espérait par-dessus tout, la paix dans l'Empire. Voilà, n'est-ce pas?
Alors, c'est avec Tibère que le système commence à déraper.
Oui, Tibère, c'est assez curieux. Il était de sentiment républicain, nous dit-on. Il détestait le pouvoir impérial. Et il a bien fallu qu'il l'assume parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Alors, de temps en temps, il laissait les choses se faire, etc. Et puis, lui aussi, il avait senti cette lassitude du pouvoir, cette usure du pouvoir. Et alors, il s'est donné à ses gens. Et ces gens, qui étaient un ambitieux assez vulgaire, quelqu'un certainement de pas très recommandable, n'est-ce pas, ces gens s'est pratiquement emparé du pouvoir et a exercé une tyrannie effective au temps de Tibère, pendant un certain nombre d'années. Et finalement, Tibère s'en est aperçu et il a mis fin au règne de ces gens. Mais il était amer, il avait eu, à travers cette aventure, une expérience du pouvoir désastreuse, il était dégoûté et il s'est, comme vous savez, retiré. Il avait commencé sous ces gens. Il s'est retiré à Capri où il vivait d'une vie solitaire et il exerçait un pouvoir qui était sans nuance parce qu'il n'était pas au cœur même du pouvoir. Et alors, ces dernières années ont été tyranniques.
Alors, nous passerons assez rapidement, Pierre Grimal, sur les empereurs qui ont suivi, Claude, Caligula, Néron, mais peut-être quelques mots sur Néron, dans la mesure où le règne de Néron, si je puis dire, n'est pas uniforme, il y a deux phases.
Non, pendant très longtemps, les historiens modernes ont parlé des cinq bonnes années de Néron, le quinquennium néronis. Maintenant, les historiens ont tendance à revenir sur cette notion, mais ça, c'est une querelle interne. En fait, il est certain qu'entre 54 et 59, c'est-à-dire entre l'avènement de Néron et la mort d'Agrippine, il y a eu un intervalle de repos, une administration qui n'était pas contestée. C'est le temps où Sénèque et Burrus régnaient sur la cour du Palatin et où Néron lui-même était plein de bonne volonté. Quand il est arrivé à 17 ans, vous savez, c'est un peu jeune, n'est-ce pas, pour être empereur, et jusqu'à 22 ans, comme ça, il a été assez docile et il a rempli le rôle qu'on attendait de lui. Et puis, alors, en grandissant, en devenant plus âgé, Néron a pris le sens de ses responsabilités, vous savez, enfin, comme Louis XIV, n'est-ce pas? Et il est tombé sous la coupe d'une femme qui semble avoir été assez curieuse, c'est le moins qu'on en puisse dire, c'est Sabina Poppea. Et Sabina Poppea a voulu régner seule sur Néron et à travers lui sur l'Empire. Si bien que elle a eu des différends très graves avec Agrippine, la mère de Néron, qui essayait elle aussi d'avoir une influence dominante sur son fils. Et elle a obtenu que Néron fasse assassiner sa mère. Et à ce moment-là, il y a eu une coupure dans le règne. Si l'on avait une mentalité antique, on pourrait dire qu'il a été poursuivi par les furies, par les hérénies du crime, que le remords, la souillure qu'il avait contractée en tuant sa mère, ne lui ont jamais laissé l'esprit complètement libre, complètement indépendant. Alors, c'est toute l'histoire. Poppée élimine progressivement l'entourage précédent. Burrus meurt à temps, empoisonné, on ne sait pas. Sénèque est écarté. Il se livre à la philosophie. Et puis, alors après, il y a Tigellin, l'influence de Tigellin, l'âme damnée de Néron. Il y a Néron qui est saisi par la débauche, comme tel autre personnage classique. Et finalement, eh bien, la conjuration de Pison, qui est connue en 65, qui donne lieu à une répression épouvantable. Et il est arrivé de Néron, comme il arrive des animaux sauvages, le sang versé lui donne le goût du sang, et il a décimé l'aristocratie jusqu'au moment où il a été lui-même contraint d'abandonner le pouvoir.
Après avoir massacré tant d'hommes distingués, Néron voulut à la fin exterminer la vertu même en immolant Thrasea Pétus et Barea Soranus. Tous deux, il les détestait depuis longtemps. Mais Thrasea avait à sa haine des titres particuliers. Il était sorti du Sénat, comme je l'ai dit, pendant la délibération sur la mort d'Agrippine. Aux représentations des Juvénales, Il n'avait pas fait voir de zèle à s'afficher en public, offense d'autant plus sensible à Néron que le même Thrasea, étant à Padoue, sa patrie, au jeu des tons institué par le Troyen en ténor, avait chanté en costume tragique. De plus, le jour où le préteur Antistius allait être condamné à mort pour une satire contre Néron, il avait proposé et fait prévaloir un avis plus doux. Enfin, lorsqu'on décerna les honneurs divins à Poppée, il s'était absenté volontairement et n'avait point paru aux funérailles. C'était autant de souvenirs que ne laissait pas tomber Cossutianus Capito, esprit naturellement porté au crime, et de plus mal disposé pour Thrasea, dont le crédit avait entraîné sa condamnation. Il assistait les députés siliciens venus l'accuser de rapine.
Nous allons donc retrouver Tacite, Pierre Grimal, oui. Puisqu'il a quand même écrit, enfin nous possédons une partie de ses écrits sur cette époque, et il est très nuancé par rapport aux opposants à Néron, en particulier sur la question de la participation à la vie politique. Comment a-t-il senti cette période ?
Alors, il ne faut pas oublier que la partie de l'œuvre de Tacite qui traite de l'Empire, c'est-à-dire les annales, ont été écrites après 106, peut-être même après 112, n'est-ce pas ? C'est-à-dire plus d'un demi-siècle après la mort de Néron et certainement plus d'un siècle après l'établissement de l'Empire, un siècle et quart à peu près. Alors, il parle de cela comme d'une époque révolue. Il n'y a pas chez lui de comparaison établie entre le présent et le passé. Il croit que l'histoire humaine, et l'histoire romaine en particulier, évolue selon des cycles. Le cycle marqué par les Julio-Claudiens et le prolongement, les Flaviens, jusqu'à la mort de Domitien en 96, ce cycle est fermé. Et maintenant, on a un siècle d'or qui commence avec Nerva, avec Trajan. Par conséquent, toute assimilation du présent au passé lui est interdite. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. N'oubliez pas qu'avant d'écrire les annales, il a écrit les histoires et que son analyse du pouvoir impérial n'est pas tout à fait la même dans les histoires qui traitent d'une autre période, de la période entre 68 et Domitien. Nous ne possédons pas les autres, mais enfin nous arrivons jusqu'à l'avènement de Titus, à peu près. Eh bien, cette description du pouvoir impérial pendant ce qu'on peut appeler ces années de transition est également sans commune mesure avec ce qu'il peut dire, ce qu'il pourrait dire et ce que visiblement il pense du temps de Trajan. Par conséquent, je dirais que son histoire se divise en différents compartiments séparés par des cloisons étanches.
Là, néanmoins, ce qui frappe, c'est que, par exemple, Thrasea, qui est un opposant, boycotte le Sénat, enfin les séances du Sénat plus exactement, se retire dans une sorte de mépris hautain, et dites-vous, Tacite n'est pas d'accord avec ce comportement qui est en gros stoïcien.
Oui.
L'est-il exactement d'ailleurs ?
Non, il n'est pas exactement stoïcien. Je pense à des lettres à Lucilius et je pense aussi au Deocio de Sénèque. Le stoïcien doit continuer à agir, même si les circonstances sont défavorables. Cette abstention, ce refus hautain du présent, c'est au fond une dérobade. Et Cicéron ne l'appelle pas lâcheté, parce qu'au fond, Thrasea n'était pas lâche. Mais ça y ressemble bien. D'ailleurs, il y aura plus tard une reprise de cela avec Herennius Senecio au temps de Domitien. Et Tacite lui-même, qui a été dans le Sénat de Domitien, n'a pas imité Pétus Thrasea. Il a voulu faire son devoir de Romain et, si vous voulez, courber la tête devant l'orage, sachant bien que ça ne durerait pas éternellement.
Une certaine culpabilité qu'on peut deviner quand même chez lui de,
oui, on peut
d'avoir
l'imaginer.
Approuvé pour,
oui,
par il son le silence.
Il le dit, oui, bien sûr. C'est l'éternel problème, n'est-ce pas ? Faut-il devant la tyrannie se tuer volontairement ? Faut-il, pour prendre une expression d'un autre siècle, s'immoler par le feu ? Ou bien faut-il essayer, dans la mesure où on le peut, faut-il essayer de changer le cours des choses et de survivre au tyran?
Alors, finalement, dans sa vie, il y a l'épisode Domitien. Je crois que ça ne gêne pas tellement sa carrière. Domitien,
non, pas du tout.
Meurt assassiné,
oui.
Une fois de plus.
Oui.
Et puis ensuite, alors, va se dessiner une période qui est, dans le fond, le contraire de ces périodes de tyrannie où, à la fois, une sorte d'anarchie et de peur et de déséquilibre à tous les niveaux.
Oui, ça a failli très mal tourner au début du règne de Nerva. Nerva était considéré comme trop âgé pour exercer un pouvoir énergique, un pouvoir fort, et les prétoriens ont exigé que les assassins de Domitien soient punis. Alors, ces assassins de Domitien étaient précisément ceux qui avaient appelé Nerva au pouvoir. Et finalement, Nerva a dû céder, et il a aussitôt adopté Trajan, qui lui était un militaire, un soldat, et qui a institué un régime dont Tacite dit, enfin pas exactement de Trajan, mais le régime elle-même, qu'il conciliait deux choses qui étaient généralement considérées comme inconciliables, le principat et la liberté, la libertas.
Parce que l'armée a le pouvoir, effectivement, déjà depuis longtemps.
Oui, c'est l'armée qui est seule capable d'assurer la paix. La paix aux frontières, mais aussi la paix à l'intérieur. Ce sont les armées, bien sûr, qui en 68-69 ont déclenché un certain nombre de guerres civiles, mais on a l'impression que c'est un accident, que ça ne peut pas se reproduire. Et effectivement, chaque fois que des généraux ont essayé de faire un pronunciamento, eh bien, ça n'a pas réussi. Il y en a eu un au début du règne de Trajan, enfin à la fin du règne de Nerva, en Germanie. On a trouvé les traces à Strasbourg, un camp détruit, etc. Mais très vite, grâce à l'esprit politique, à l'énergie de Trajan, les choses sont rentrées dans l'ordre et ça a été le commencement de la monarchie des Antonins, c'est-à-dire l'âge d'or, n'est-ce pas, de l'Empire romain.
Or, un homme comme Trajan tient compte du Sénat, j'imagine,
et de
l'opinion des sénateurs.
Bien sûr. C'est dans cette mesure qu'il n'est pas un tyran. Il est respectueux de ce principe fondamental de l'esprit romain sous la République comme sous l'Empire, la distinction très nette établie entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. L'empereur réunit ces deux pouvoirs, mais il les exerce différemment. Le pouvoir militaire, il l'exerce comme un roi, je vous le disais tout à l'heure. Le pouvoir civil, il l'exerce comme un leader, le premier citoyen entouré de ses conseillers. Il délègue les pouvoirs qui traditionnellement appartiennent au peuple et au Sénat. Il les délègue à des magistrats qui sont élus, bien sûr, dans des conditions qui ne sont pas suffrage universel direct, mais avec une direction, n'est-ce pas ? Mais il y a au moins la volonté de respecter la libertas, c'est-à-dire l'autonomie des simples citoyens, leur droit à la propriété, etc.
Peut-on, Pierre Grimal, définir un peu les rapports entre la tyrannie, lorsqu'elle existe, donc, et la religion, ou les religions, puisque Rome est largement envahie. Bien sûr, c'est un problème d'époque, si nous considérons des gens comme Commode beaucoup plus tard, etc. C'est une version des choses. Mais disons, à travers le premier siècle, est-ce que le facteur religieux a une importance ?
Je dirais plutôt qu'il a une importance, une action modératrice sur le pouvoir. Nous savons, par les conditions dans lesquelles s'est produite l'adoption de Trajan, que cette adoption a eu lieu sous les auspices de Jupiter. Jupiter Optimus Maximus, c'est-à-dire le très secourable et le très grand. Et ce Jupiter est le garant des vertus de l'homme d'État, des vertus de l'empereur. C'est le modèle sur lequel il faut toujours avoir les yeux tournés. Alors, la religion officielle, Jupiter, garant du serment, garant donc de la parole donnée, de la fidesse, c'est-à-dire de la volonté de sauvegarder les citoyens, ce Jupiter, dans la mesure où son culte est universel, est un peu garant de la liberté. Et il est le contraire d'un tyran. On ne dira jamais d'un tyran qu'il est Optimus. naturellement. Au contraire, il est pessimus, bien entendu.
Oui, le tyran viole les règles élémentaires de la religion romaine.
De la religion romaine. Alors, vous me demandiez, je crois, si les autres religions pouvaient établir une tyrannie. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas été les plus fortes, non. Mais il est arrivé un jour. Voilà.
Paru donc récemment chez Fayard un Tacite de Pierre Grimal, qui avait d'ailleurs été précédé d'un Cicéron chez le même éditeur, ouvrage qui n'est pas non plus sans rapport avec la tyrannie.
S'achève le Bréviaire des tyrans par Roland Guay avec la participation de Pierre Grimal. Les textes étaient lus par Pierre Lafont, réalisation Arlette Dave. Il est 8h57, voici quelques rendez-vous de la matinée sur France Culture. Tout d'abord, à 9h05, dans Le Temps qui change, une émission de Michel Chouchan, il sera question des Jeux de l'État. Ça ne coûte pas cher et ça rapporte très gros au budget de l'État. Loto, loto sportif, tac au tac, tapis vert, PMU, Le Temps qui change dissèque les règles du jeu et les enjeux du grand marché de la chance. Un peu plus tard, à 10h40, les chemins de la connaissance, le savoir démesuré, les érudits, par Louis Mizone. En fin de matinée, à 11h30, vous pourrez entendre le dernier volet d'une série de 10 entretiens d'Henri Guillemin avec Jean Lacouture. Enfin, au sommaire du panorama de ce midi, littérature étrangère en première partie, littérature hongroise et polonaise. En seconde partie, après les informations, l'histoire contemporaine. Je vous rappelle que France Culture a décerné ses prix 1990. Le prix littéraire France Culture va à Claude Roy. C'est une consécration pour cet écrivain, romancier, essayiste, critique littéraire que nous connaissons tous très bien et qui pourtant, curieusement, est passé trop souvent au travers des prix littéraires. Pour l'ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour son dernier ouvrage « L'étonnement du voyageur » qui fait suite à « Permis de séjour » et à « La fleur du temps » édité chez Gallimard, France Culture s'honore de rendre un hommage attendu à Claude Roy. Le prix étranger de France Culture va à un écrivain suédois dont c'est le premier livre édité en France. C'est chez un nouvel éditeur, Mania, que le jury de France Culture a découvert La fabrique de violence de Jan Guillou, journaliste, scénariste et dramaturge suédois, traduit par Philippe Bouquet. Deux livres que France Culture vous propose donc de lire toutes affaires cessantes. L'étonnement du voyageur, 1987-1989, de Claude Roy, chez Gallimard, et La fabrique de violence, de Jan Guillou, chez Mania. Prix France Culture, 1990. Il est 9h précises.